radiocultura.eus.
Fab Lab EA est né de la rénovation d'un four à pain par des moyens numériques et artisanaux et de la volonté de deux aspandars de faire revivre un lieu unique, chargé d'histoire. Mathieu Bordato, jeune aspandar impliqué dans le projet, nous présente ce nouveau lieu de partage des connaissances ancestrales et nouvelles technologies.
Effectivement, la plupart des Fab Labs se trouvent plutôt dans des grandes villes et nous, on a cette chance d'avoir ce local en plein centre-ville. Alors voilà, il n'y a peut-être pas autant de passages que dans le BAB, mais par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui passent devant, qui n'ont aucune idée de ce qu'est un Fab Lab et qu'on encourage bien évidemment à franchir le seuil de porte pour découvrir du moins le four et puis peut-être plus tard voilà, de la modélisation 3D, de l'impression 3D, etc. Bonjour, je m'appelle Mathieu Bordato, j'ai grandi à Sparin, j'ai fait des études à Bordeaux puis à Donosti, à Saint-Sébastien, en basque d'ailleurs, des études d'ingénierie mécanique, et je suis revenu vivre ici, et je me suis toujours beaucoup impliqué ici, au niveau culturel, au niveau associatif, voilà, on a monté Ciné Ginfestibala, le festival du cinéma en langue basque, et aujourd'hui, voilà, on est sur un nouveau projet, et le projet s'appelle Fab Lab EA. Fab Lab EA, c'est la contraction de Fab Lab et de Lab EA en basque qui veut dire four. Pourquoi ? Parce que le projet est né d'un four à bois présent dans la maison Arkitea, elle-même située en face de la place Saint-Jean et en face de la boulangerie Bidard et de l'office de tourisme ici sur Asparin. Donc il y avait un vieux four à bois datant de même avant 1900, donc fin 19e siècle, parce qu'il y a eu une boulangerie à l'époque. Et ce four à bois représente bien ce qui se faisait à l'époque de communautaire, de mise en commun d'outils. Et de cette idée-là, et de l'idée de Jessica Echeverry, technicienne de l'Aglo, chargée de l'économie sociale et solidaire, on est arrivé à l'idée de créer un Fab Lab dans ce lieu-là. Effectivement, pour le restaurer, ce vieux four à bois, parce que dans cette maison, il y a des appartements sociaux au-dessus, et il y a la boutique informatique de Compa, mais il y avait encore de la place avec ce four. Et pour restaurer ce four, avant de restaurer les habitations au-dessus, déjà c'était un grand défi, et il y a un étudiant de l'ESTIA qui a aidé à numériser le corps du four, avec un faro 3D multipoint qui a été placé à l'intérieur sur trois endroits, et qui prenait plein de mesures. Mais pour le stabiliser, il a fallu aussi imprimer en 3D un support, en collaboration avec le lycée Saint-Joseph, etc. Donc d'entrée, voilà, cette restauration de four a nécessité du numérique, des connaissances, et un réseau aussi entre les étudiants, le lycée Saint-Joseph, le lycée Canto qui a prêté le faro, etc. Et une coordination gérée par Edouard Roxobi. Finalement, cette idée de Fab Lab est bienvenue parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est non pas séparer le travail manuel du travail numérique, mais plutôt montrer que dans un même lieu, on peut essayer de stimuler les deux et valoriser les deux. Il nous semble très important de sortir du cliché que les travaux manuels n'a pas de valeur, c'est faux. Beaucoup de gens aujourd'hui, que ce soit des chefs en cuisine ou des artisans, gagnent même mieux leur vie que beaucoup d'ingénieurs sortis d'école. La valeur n'est pas là où on pense parfois. Donc déjà, il y a ça qui est important pour nous. Et par contre, on trouve important aussi que la technique, et notamment liée au numérique, et la fabrication à l'aide du numérique, qui sont des technologies peu accessibles parce que chères, on trouve important aussi que ça redevienne des communs. Donc la solution la plus simple et qui représentait le moins de risques aussi pour nous, c'était de créer une association. Et voilà, ça nous a permis d'aller chercher des subventions au niveau de la région, de l'agglo, du département, de la mairie. La Fondation Orange aussi a soutenu le projet. Donc l'idée, c'est de pouvoir investir dans un lieu, dans du matériel et aussi dans des personnes. Donc on a pu embaucher comme ça deux personnes à mi-temps qui sont chargées d'ouvrir le lieu et d'accompagner les personnes dans la mise en œuvre de leur projet, dans leur apprentissage et dans la bonne utilisation des machines. Effectivement, la plupart des Fab Labs se trouvent plutôt dans des grandes villes et il n'y en avait pas d'ouvert comme ça au public dans un local fixe à Nipparaldé, même s'il y a Kokoba qui a existé à Hendaye et qui continue de manière un peu décentralisée à intervenir dans des écoles, etc., il me semble. Donc c'est pas toujours voilà dans des petites villes que ça s'implante. Par contre, on est très content que ce soit le cas parce que souvent dans les grandes villes, leur place est finalement assez excentrée. Ils se retrouvent plutôt dans des pépinières d'entreprise ou des zones d'activité, etc. Donc finalement assez éloignés, assez isolés du public. Et nous, on a cette chance d'avoir ce local en plein centre-ville. Alors voilà, il n'y a peut-être pas autant de passages que dans le BAB, mais par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui passent devant, qui n'ont aucune idée de ce qu'est un Fab Lab, et qu'on encourage bien évidemment à franchir le seuil de porte pour découvrir du moins le four, et puis peut-être plus tard, voilà, de la modélisation 3D, de l'impression 3D, etc. Quand on y rentre, en plus du four de Hélène Chouguet, on l'a appelé Hélène Chouguet, le dragon qui sommeillait dans le four, on est en train de le réveiller peu à peu. Et on y trouve des ordinateurs pour faire de l'inclusion numérique et donner accès à des ordinateurs de qualité, avec une connexion aussi de qualité, avec le partenariat qu'on a eu avec Isarlink, qui fait de la fibre optique au niveau professionnel ici à Nipparaldé. Donc on a ces ordinateurs qui sont à disposition. On a également des petites imprimantes 3D, on a des machines à sublimation qui permettent de floquer par exemple des mugs ou des t-shirts, etc. Donc d'imprimer par-dessus. Et on a une découpe laser, donc c'est une machine assez importante, assez imposante, qui permet de graver soit des photos, soit des logos en vectoriel sur du bois, sur du cuir, ça peut être sur différents plastiques, etc. Voilà. Donc c'est un peu les machines qu'on a. On a aussi une Cricut qui permet de découper de manière très précise à l'aide d'un cutter robotisé, du vinyle et des autocollants, etc. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce qu'on a pour l'instant, mais ça pourra évoluer. Il y a des Fab Labs qui ont des brodeuses numériques, qui ont des CNC. Nous, on s'est équipé un petit peu en électroportatif également. Donc on a une petite partie de du lieu qui est fermée pour protéger du son et des poussières. Et donc on peut y faire un peu de mécanique, un peu de travailler un peu le bois. Pendant toute la phase de réflexion, là, sous les 2 ans, on a eu notamment droit à un accompagnement, voilà, un DLA, le dispositif local d'accompagnement porté par PSL 64 ici. Ça nous a aidé à professionnaliser la structure. Et donc, c'est Christophe Pénalvert qui nous a accompagnés et qui nous a fait réfléchir notamment sur les axes stratégiques. C'était de réfléchir un peu sur les besoins sociaux et auxquels répondrait le projet. Et donc les 3 axes principaux pour nous sont l'aide au prototypage et la mise en commun. Voilà, comme les fours à l'époque étaient mis en commun dans le village, ben nous, tout ce matériel technique, informatique, etc., ben on veut le mettre à disposition du plus grand nombre et à moindre coût, voilà, pour les aider à prototyper. Ensuite, pour pouvoir les utiliser, il faut se former. Et donc là aussi, on pense qu'il y a des grands besoins et des manques ici dans le secteur. Donc on souhaite proposer de la formation professionnelle à terme, c'est-à-dire que les entreprises pourront nous envoyer leurs salariés pour apprendre à modéliser en 3D, utiliser certaines machines et donc gagner en autonomie, gagner en compétences au niveau de leurs entreprises, au niveau des associations également. Voilà, l'idée étant d'être de moins en moins dépendant des achats qu'on fait en Chine, etc. Puis voilà, dans cette période qui est en crise dans tous les sens, je pense que de gagner en autonomie, c'est toujours une bonne chose. Troisième axe, et pas des moindres, c'est la partie tiers-lieu qu'on développe, donc c'est-à-dire la partie sociale, d'accueil, et avec des ambitions d'activité culturelle également sur le lieu, ou alors qu'on participe à la vie du village en fonction de l'événement culturel, que ce soit pour Noël ou pour Yaouteli. On est content de recevoir les cache-carottes par exemple en février prochain. Voilà, donc c'est déjà participer à la vie du village par les événements qu'il y a dans le village, mais également peut-être proposer nous aussi d'autres temps forts ou des petites formes artistiques aussi. Le lieu n'est pas très grand, mais voilà, on peut très bien recevoir des musiciens, d'autres types aussi d'artistes. Ça peut être des peintures, de la photo, etc. cadre de du tiers-lieu, on voulait aussi ouvrir en dehors du numérique un maximum. Et donc, on aura très vite un calendrier hebdomadaire d'activités proposées en dehors du numérique. Ça peut être sur la fabrication du savon, une sortie botanique, de la couture, de la cuisine. Et évidemment, avec le four à bois, on pensait par exemple le premier samedi du mois, ou à choisir en tout cas un moment dans le mois ou le jour du marché, on pourrait utiliser les produits du marché et faire quelque chose de convivial avec, pour les adhérents et avec les adhérents. Il y a 2 ans, quand on a démarré le projet, en moins de 3 semaines qu'on avait rempli les statuts, déposé les statuts de l'association avec Edouard Roxobi et Thomas Duchange à l'époque, on avait la région qui nous avait suivi à hauteur de 60 000 euros. Bon, à condition bien sûr que le projet aille jusqu'au bout, mais avec quand même 24 000 euros, un premier acompte qui était versé tout de suite. Et donc, bon, nous, un peu fous qu'on est, et puis moi j'aime bien quand ça va vite aussi, donc on s'était un peu naïvement imaginé que 6 mois après, le lieu ouvrirait, parce que si tout avait été aussi vite, ça aurait peut-être pu être le cas. Mais en fin de compte, bon, on se rend compte premièrement que dans ce type de projet, et poursuivre d'autres accompagnements, là, notamment l'accompagnement CAPAM proposé par France Active, qui est très intéressante sur la partie financière, fiscale, etc., pour une association. On se rend compte que voilà, c'est le lot de tous les projets. Voilà, il y a toujours ce temps d'incubation, un peu de réflexion, d'aller chercher les financements, etc. Deux ans après, on est très content que le lieu ouvre et on est très content du chemin qu'on a parcouru. C'est vrai qu'on aurait su qu'il faudrait ces 2 années-là avec autant de temps bénévole consacré, on n'y serait peut-être pas allé. Clairement, on n'y serait pas allé. Mais en fin de compte, c'était nécessaire, ne serait-ce que pour trouver un équilibre dans le groupe, trouver les bonnes personnes, être en confiance dans le groupe avant de commencer à professionnaliser la structure, parce que maintenant qu'on a cette nouvelle fonction d'employeur, on a d'autres responsabilités et un nouveau challenge aussi d'essayer d'assurer ça du mieux que possible, le fait que les salariés se sentent bien dans une structure de bénévoles, on va dire. C'est pas évident, mais on est très content du chemin parcouru et puis des bases aussi avec lesquelles on ouvre le lieu. Nous, là, maintenant, la priorité, c'est de vraiment mettre en œuvre un calendrier au niveau de tous ces ateliers de tiers-lieux, etc., de finaliser aussi un peu les tarifs qu'on va proposer pour que les gens puissent utiliser les machines, qu'ils aient aussi des formations sur ces machines-là au plus vite. Et voilà, nous, on espère que le projet rencontrera le succès qu'on en attend. On n'a pas trop de doutes, dans la mesure où c'est un lieu un peu atypique et novateur. Voilà, nous, en 2 ans, on a vu tellement de monde qu'on connaissait pas, qui sont venus nous rencontrer, etc. Donc, on n'a pas de doute que le lieu attire du monde. Après, voilà, à nous et aux salariés de faire en sorte que le lieu soit accueillant, qu'on arrive à trouver les réponses aux attentes des personnes de manière assez réactive et de la meilleure manière possible, quoi. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir réduire la partie de financement public pour arriver à de l'autofinancement majoritaire, pour être toujours les plus autonomes possibles et indépendants possibles dans nos choix stratégiques pour la structure.
Radio Cultura. Eus.